Bonjour, donc bienvenue dans cette deuxième partie de l'audio. Dans cette deuxième partie, on va aborder ensemble donc le cœur du message. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, je vous renvoie tout de suite à cette partie-là. Écoutez-la. C'est une partie importante, introductive, dans laquelle je me présente, où je vous explique un peu mon itinéraire spirituel des dernières années et comment je me positionne par rapport au message que je m'apprête à vous donner ici. Un message qui, comme je vous l'ai dit, est donc d'une rare importance et qui doit être écouté, je crois, avec beaucoup d'attention. Alors, pardonnez-moi d'avance si je m'étale un peu, si par moment c'est un petit peu peut-être longuet. Je vais essayer de faire au mieux. J'espère que ça va aller, que vous allez suivre. J'espère que je serai au plus clair. Et s'il y a la moindre question, la moindre incompréhension de votre part, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact sur le site web ou via l'adresse mail rencontredieu.com@gmail.com. Bon, le message que j'ai reçu, je vous le donne. Et c'est ce que j'ai vécu à 100%. Maintenant, à chacun d'en tirer ses conclusions. C'est juste un pur partage que je ne peux pas garder pour moi, parce que si je le garde pour moi, je sens que je vais terminer comme Jonas dans un gros poisson, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je n'ai pas envie d'en arriver à cet extrême-là. Je vais partager le message avec vous tous, et puis à vous, sentez-vous libre de le partager, sentez-vous libre d'en parler, et je vous conseille vraiment de beaucoup prier par rapport à ça, de beaucoup chercher la face de l'Éternel par rapport à ça, de davantage avoir de l'intimité avec Dieu, de lire sa parole pour vraiment comprendre tout ce qui est dit ici. Enfin, comprendre, je dirais plutôt pour vraiment avoir des validations dans votre cœur de tout ce qui est dit ici. Il y a quelques temps, c'était fin décembre 2014, exactement le 20 décembre 2014. Il y avait un enseignement vraiment particulièrement puissant, donc du Rav Dinovitch. Voilà. Alors le Rav Dinovitch, je sais, il y a beaucoup de choses qui se sont dites là-dessus. Vous avez vu que le site a pris une tournure avec pas mal de vidéos du Rav Dinovitch. Enfin, des vidéos, c'est plutôt des morceaux que j'ai sélectionnés, que j'ai intégrés à des montages vidéo. Faut pas vous étonner, c'est normal. Je vous invite d'ailleurs à lire à la rubrique Torah sur le site web. Vous cliquez donc sur la rubrique Torah et vous descendez un peu avec la souris. Vous avez pas mal de textes avec des informations que je juge importantes à connaître par rapport à la position du site web concernant les différents enseignements rabbiniques. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à ça, je sais que ça peut troubler plusieurs personnes. Allez lire à la rubrique Torah. Vous comprendrez, allez lire aussi à la rubrique Conflit israélo-palestinien dans la rubrique Torah, il y a aussi des choses à lire, vous comprendrez. Pour résumer ce qu'il y a à dire, c'est retenez ce qui est bon, gardez un équilibre et surtout ne quittez pas le Messie Yeshua, le Messie qui est révélé dans la Nouvelle Alliance, car c'est lui le véritable, c'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis, moi, sur le site web rencontredieu.com, de sélectionner quelques passages. À retenir justement des choses bonnes que je vous partage, mais ça ne veut pas dire que je cautionne tout ce qu'il dit, loin de là. Par contre, évidemment, j'estime qu'il partage une quantité phénoménale de trésors et de joyaux que j'aime extraire de ses enseignements pour vous les proposer, pour vous proposer un échantillonnage sur le site. Et je reviens à ce que je disais. Donc, fin décembre 2014, à peu près donc le Shabbat du 20 décembre 2014, suivi du dimanche 21 décembre 2014, c'est là qu'il s'est donc produit des choses absolument étonnantes dans mon cœur suite aux enseignements reçus lors de cet enseignement qui portait sur la paracha Miketz. La paracha Miketz, qu'est-ce que c'est? C'est donc l'étude de la Torah qui correspond au songe de Pharaon avec les sept vaches grasses, les sept vaches maigres, les épis maigres, les épis gras, pareil. Voilà, c'est le songe de Pharaon que Joseph explique, va dévoiler, va révéler à Pharaon. Pharaon est donc troublé de ce songe et il a fait donc venir Joseph pour lui expliquer ce songe. Il a vu sept vaches grasses qui sont sorties du Nil, suivies de sept vaches maigres qui sont sorties du Nil, qui sont sortis du fleuve, plus exactement dans le texte, c'est en fait le Nil, et donc il comprenait pas. Il a fait donc venir, je résume vraiment très rapidement, il a fait venir Joseph pour que Joseph lui explique le songe. Et c'était donc la paracha de ce Shabbat. Et donc dimanche, je décide de regarder un autre enseignement du Rav Dinovitch à ce sujet, qui s'appelle « La crise économique et les Juifs ». Et là, donc, c'est là qu'il s'est passé énormément de choses dans mon cœur. En l'espace de quelques secondes, je pourrais pas dire exactement, c'était rapide. J'ai eu, en écoutant l'enseignement, il m'est arrivé comme un flot de pensées qui s'est déversé dans mon esprit, dans mon cœur, et des liens, des connexions qui se sont faites avec tout ce que Dieu m'avait montré dans le passé, et tout est devenu assez clair. Et qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que Rav Dinovitch, il expliquait une chose par rapport au songe de Pharaon. Il disait, les sages d'Israël ont expliqué que, donc l'interprétation, l'explication, les commentaires des sages d'Israël sur ce passage du songe de Pharaon, ont expliqué que le fait que les vaches sortent du Nil, il y a ici une indication très forte. Le Nil, qu'est-ce que c'est? Le Nil, à l'époque, c'était vraiment la source économique principale de l'Égypte. L'Égypte était riche, puissante, et le Nil était vraiment, pour eux, au point que le Nil était divinisé, on le sait. C'était vraiment la source première de richesse, d'économie, de prospérité, donc de l'Égypte. Donc, le fait que les vaches sortent du Nil nous donne une indication et un enseignement capital. L'endroit qui génère le profit, c'est-à-dire le Nil, c'est cet endroit même qui va être impacté. C'est-à-dire que le profit, l'abondance, la richesse que génère le Nil ne va plus produire, et c'est pour ça qu'il y aura une famine. C'est l'interprétation que fait Joseph, donc du pharaon, du songe de Pharaon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on lit le texte de la Torah, la signification est évidente, et c'est en fait ce qu'a vu Joseph. Puisque les vaches grasses sortent du Nil, ça montre que le Nil va encore produire cette année d'abondance. Mais comme on voit des vaches maigres qui sortent du Nil par la suite, c'est donc la famine qui va sortir du Nil. C'est donc que la prospérité, la richesse et l'abondance du pays vont être mises à mal, et que finalement c'est la famine qui va régner et la prospérité de l'Égypte va disparaître. Et à partir de l'étude de ce texte de la Torah, les sages d'Israël, il y a des milliers d'années, vont faire une prophétie, vont annoncer une prophétie correspondant à la fin des temps. Alors, je fais une petite précision. Je fais une petite précision sur les nombreuses prophéties qui existent et que le monde chrétien ignore, à cause de cette coupure avec ses racines juives. Le monde chrétien ignore qu'il y a beaucoup de prophéties, données par les sages d'Israël, ce qu'on appelle les sages d'Israël, hein, c'est-à-dire vraiment des hommes qui ont continué la transmission de la Torah de siècle en siècle jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a beaucoup qui étaient vraiment remplis de l'esprit, moi j'en suis convaincu. Et malgré des fautes inhérentes à chacun, en tout cas il y a vraiment des enseignements incroyables et des prophéties extrêmement précises. Par exemple, il ne faut pas oublier que les sages d'Israël, dans bien des commentaires, ont prévu et vu la Shoah. Ça, je précise, ils ont vu la Shoah arriver, il y a des enseignements précis là-dessus, vous pouvez me demander par mail si vous voulez, je vous enverrai les liens, mais il y a des enseignements précis là-dessus, ils ont vu, par les seuls textes de la Torah et l'étude du texte hébreu et par le souffle de Dieu, ils ont vu la Shoah qui arriverait à la fin des temps, d'un pays qui s'appelle Germania. Germania qui, comme on le sait, correspond à Germania, à la Germanie, et Germanie, on sait, c'est l'Allemagne. Donc, ils le savaient, c'était vu des siècles bien avant la Shoah. Et ça, ils l'ont vu il y a des milliers d'années. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc, rien que ça, en soi, c'est énorme. Et des prédictions du même calibre, il y en a, j'ai presque envie de dire, il y en a un paquet qui sont inconnus du monde chrétien et inconnus de beaucoup de monde, mais qui existent et qui sont facilement trouvables, qui nous montrent qu'il y a une force prophétique évidente parmi les sages d'Israël, qui serait bon de connaître et de ne pas prendre à la légère. Et donc, pour revenir au passage du songe de Pharaon, ce passage de la Torah que les sages d'Israël ont étudié et à partir duquel ils ont vu une prophétie pour les temps de la fin, ils annoncent que pour la fin des temps, Alors, je vous redis presque mot pour mot ce qu'il a dit. À la fin des temps, il y aura une abondance de richesses, une abondance de produits, une abondance de biens, si vous voulez, mais plus d'argent. Je vous rappelle quand même que ça a été écrit, ça a été annoncé, donc il y a des milliers d'années. Il y a des milliers d'années, ils ont annoncé qu'il arriverait avec ce seul texte de la Torah, ce seul passage du songe de Pharaon, les sages d'Israël ont vu que avant la délivrance finale, juste avant, il y aura une abondance de biens dans le monde, mais plus d'argent. Une crise économique majeure moderne annoncée par les sages d'Israël. Alors, quand on considère l'époque dans laquelle on est, on a vu une crise économique globale majeure en 29, une en 2008 qui a failli mettre le monde par terre, et une qui est très très prochainement à venir, et que l'on constate effectivement que le monde est rempli de biens, de produits, de richesses, mais qu'effectivement il y a plus d'argent. Les pauvres deviennent toujours plus pauvres et les riches, la petite poignée de riches, s'enrichissent toujours plus. À côté de ça, on voit bien que malgré que le monde est rempli de richesses matérielles, finalement, concrètement, on le sait, au niveau des États, au niveau des banques, il n'y a plus d'argent. Les pays sont endettés, les États-Unis, la France, c'est des dettes gigantesques. Et il n'y a effectivement plus d'argent. Donc il est évident qu'on est en plein dedans. Je ne sais pas s'il y a une époque où on pouvait dire que le monde entier était rempli de biens, de produits, mais qu'il n'y avait plus d'argent au niveau mondial. On est peut-être une des rares époques où cette chose-là se produit. Donc on est vraiment en plein dedans. On peut voir, on peut considérer la juste vision des sages d'Israël qui, à partir de ce seul passage de la Torah, ont quand même annoncé il y a des milliers d'années qu'à la fin des temps, avant la délivrance finale, il y aura finalement une crise économique finalement moderne, majeure, mondiale, à l'image de ce qu'a vécu Pharaon à l'époque de l'Égypte. Je vous renvoie de toute façon pour beaucoup plus de détails, de textes éventuellement, je vous renvoie à la fameuse vidéo crise économique mondiale majeure annoncée par la Torah, une vidéo qui est sur le site web rencontredieu.com que je vous invite vraiment à revisionner. Elle est pas très longue, elle dure 7 minutes et il y a pas mal d'éléments intéressants où vous retrouverez donc toutes ces informations là. C'est pas tout, c'est que effectivement par rapport au songe de Pharaon, le fait que les vaches sortent du Nil, on a dit que ça représentait que l'endroit qui crée le profit, c'est-à-dire le Nil, c'est de lui que va sortir la destruction. Les vaches sortent du Nil, donc c'est une image que nous montre la Torah pour nous dire de l'endroit qui génère le profit, c'est de là que va venir le problème finalement. Avant de continuer davantage, il y a un point important que j'aimerais vous partager et qu'il faut vraiment noter et prendre en considération. C'est que les sages d'Israël enseignent que chaque histoire qui se trouve dans la Torah est un modèle qui se répète et qui se reproduit pour toutes les générations et pour tous les temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune histoire qui se trouve dans les Saintes Écritures qui n'ait pas un impact et qui n'ait pas un modèle qui traverse l'histoire. Ça, c'est quelque chose de très important. Chaque histoire dans la Torah a finalement donc une portée éternelle et se répète à travers le temps à plusieurs reprises. Et donc au niveau du songe de Pharaon et de la paracha Miketz, qui correspond à des textes donc dans le livre de Genèse, les sages d'Israël ont vu qu'effectivement, en tout cas ce modèle-là précisément, ils l'ont annoncé, se reproduira avant la délivrance finale, juste avant la venue du Messie. Donc aujourd'hui, le Nil moderne, on peut dire que le Nil moderne aujourd'hui, c'est donc le capitalisme, ce système économique mondial, global, absolument corrompu, et que l'Égypte moderne, bah c'est le monde, c'est la grande Babylone dans laquelle on est, c'est ce monde où on sait très bien, tout le monde le sent plus ou moins, croyant ou non croyant, que cette Égypte moderne touche à sa fin. Et que le Nil moderne, qu'est le capitalisme, est en train d'entraîner lentement mais sûrement le monde entier dans une catastrophe économique globale majeure. Et c'est tout simplement ce qu'annoncent les sages d'Israël il y a des milliers d'années, en affirmant qu'à l'aube de la délivrance finale, juste avant le retour du Messie, il y aura une abondance de biens dans le monde et plus de richesses. Et il précise bien dans le monde et plus de richesses. Donc quand il a dit ça, c'est là que véritablement j'ai eu tout un flot de pensées, tout un flot qui s'est déversé dans mon cœur. Et j'ai fait beaucoup de liens avec ce que j'ai reçu dans le passé. C'est ici maintenant le cœur du message, finalement, le flot de pensées qui est arrivé, suivi donc de toutes ces confirmations qui n'ont cessé jusqu'à aujourd'hui. Alors je tiens à préciser une chose extrêmement importante. Cette chose, c'est que en décembre 2014, je précise une chose extrêmement importante. Je n'avais jamais entendu dire de la part de personne, de près ou de loin, un quelconque événement pour 2015. On sait très bien qu'en 2000, tout le monde parlait de l'an 2000, tout le monde parlait de l'an 2012, etc. Mais pour 2015, je n'avais jamais rien entendu. Ça, c'est quelque chose qui, premièrement, est extrêmement important à préciser. Je tiens à insister même énormément là-dessus, parce que ce que j'ai reçu dans mon cœur, je l'ai reçu sans consulter personne. J'avais juste entendu parler, notamment lors de mon super merveilleux séjour, qui était vraiment un super séjour en Israël en avril 2014. J'ai pu faire Pessah en Israël, d'ailleurs, la Pâque de l'Éternel. J'entendais juste parler du phénomène des tétrades. On disait qu'effectivement, ce fameux phénomène d'éclipse lunaire qui se répète très rarement et à chaque fois ça concorde avec les fêtes juives et avec des événements majeurs dans l'histoire. Bon, j'accordais pas trop d'importance, je trouvais ça très étonnant, je suivais ça de plus ou moins loin, mais bon. Donc, je gardais ça, je garde toujours ça dans un coin de ma tête, en me disant, bon, tiens, effectivement, des phénomènes de lune rouge, en concordance parfaite avec les fêtes juives, les fêtes de l'Éternel. Bon, il y a quelque chose d'étonnant, effectivement. Donc, à part le phénomène des tétrades, absolument rien ne m'avait interpellé pour 2015. J'avais rien entendu pour cette date. Absolument rien. Donc, maintenant, je vais vous partager. Enfin, le cœur du message, le cœur de toutes ces pensées qui se sont succédées, qui se sont multipliées même, je dirais, dans ma tête pour me faire arriver à une conclusion des plus étonnantes. Alors, voici le flot de pensées donc, que j'ai eu lorsque j'ai entendu cet enseignement. Premièrement, c'est exactement ce que l'on vit, une abondance de biens, mais plus d'argent. En plus, deuxième point, les prévisions des spécialistes en économie que je suivais en 2009 vont dans le même sens. Je me rappelle qu'ils prévoyaient un crash économique pour, au pire, 2014-2015, ils disaient, à l'époque, en 2009. Et ça, c'est une pensée qui m'est revenue. Et troisièmement, le point le plus important qui m'est revenu en tête, qui m'est descendu dans le cœur et dans les entrailles, j'ai envie de dire, c'est un livre que j'avais lu. Donc là, il y a à peu près 6 ans, j'avais lu un livre d'un passionné d'économie. Le livre, il s'appelait 777. Donc le livre de ce spécialiste en économie s'appelait 777. En fait, il parlait du krach boursier de Wall Street en 2008. Et il donne un détail énorme. Il affirmait que donc le krach boursier, c'est une vérité, hein, qui a eu lieu en 2008. Il a eu lieu précisément lors d'une fête juive, la fête des trompettes, qui s'appelle aussi Rosh Hashanah, une des 7 fêtes de l'Éternel, qui avait lieu donc le 29 septembre 2008. C'est ce jour-là qui a eu le crash économique et qui a failli d'entraîner le monde entier dans la catastrophe. Et vous vous rappelez, tout le monde le sait, tout le monde est au courant de ça, c'était pendant des années jusqu'à aujourd'hui encore, des restrictions, l'État qui injectait massivement et honteusement même, je dirais, l'argent dans les banques, des milliards dans les banques pour maintenir un système voué à la destruction en vie. Et continuer à jouer le jeu finalement le jeu de ce système capitaliste absolument autodestructeur, perverti jusqu'à la moelle. Et l'auteur du livre dit une chose extrêmement importante, que ça a eu lieu précisément à la fête juive, le 29 septembre 2008, à Rosh Hashanah. Et Il rajoute une chose extraordinaire que peut-être certains d'entre vous savent, mais en tout cas moi je ne savais pas à l'époque, évidemment, c'est que la chute de l'indice, la chute donc de l'index Dow Jones, hein, je relis un peu mes notes, l'index Dow Jones a fait une chute historique de précisément moins 777,7 points. Un chiffre tellement troublant que même les boursiers athées les plus endurcis y ont vu un terrible mauvais présage pour le futur. Le moins 777,7 représentant l'anti-jackpot par excellence, sombre présage d'un effondrement à venir, un effondrement inversement proportionnel à cette illusoire surabondance générée ces dernières décennies par une économie basée sur la corruption, la cupidité et des pyramides de dettes tenant les unes sur les autres dans un équilibre fragile. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On fait un tout petit résumé. Le 29 septembre 2008, crash économique, chute historique de moins 777,7, qui correspond effectivement, quand on sait que le 7 c'est un chiffre divin, le 777 c'est le chiffre du jackpot, le moins 777 c'est exactement l'inverse, c'est un mauvais présage, il n'y a pas de hasard. D'ailleurs je vous invite à regarder les vidéos sur les sites, une vidéo que j'ai fait dans la catégorie fiabilité de la Bible, un montage qui fait intervenir pasteur, scientifique, rabbin, et qui montre bien que aujourd'hui, de manière formelle, évidente, claire, même si ça paraît fou pour certains, mais en tout cas c'est la vérité, le hasard n'a pas sa place. Le hasard n'existe pas. C'est juste un mot qu'on a inventé et qu'on a posé sur notre ignorance. Pour exprimer notre ignorance de certains événements, mais en fait, le hasard n'existe pas. En tout cas, le moins 777,7 n'est absolument pas hasardeux. D'autant plus que cette chute historique du Dow Jones de moins 777,7 a eu lieu précisément un jour de fête de l'Éternel, qui est le 29 septembre 2008, qui correspond donc à cette fête juive de la fête des trompettes, fête de l'Éternel, ou appelée aussi Rosh Hashanah. Et on ressent bien derrière ces événements qu'il y a comme une volonté, comme il y a une volonté d'attirer notre attention donc sur des événements qui sont d'une précision d'horloger, un moins 777,7 qui a une grande signification, qui tombe à un jour de fête de l'Éternel qui arrive une seule fois dans l'année, qui est la fête des trompettes, et qui a aussi une grande signification. Il y a vraiment derrière cela comme une précision d'horloger, comme pour attirer notre attention. Et là, dans mon cœur, quand je me suis rappelé donc de cet événement dans le livre que j'ai lu il y a des années auparavant, dans mon cœur, à ce moment-là, j'ai eu vraiment comme une sonnerie, comme une sonnerie dans mon cœur qui me disait clairement. C'était presque une pensée qui s'imposait à moi, si vous voulez. Et cette pensée, c'était la suivante. Compte 7 années, compte 7 ans à partir de septembre 2008. Comme si ce crash économique en 2008 était le top départ de 7 années. Alors, je compte 7 années et j'arrive en septembre 2015. J'ai fait, waouh, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? En septembre 2015, qu'est-ce qui va se passer? J'étais vraiment saisi, je dois dire, de cette pensée, septembre 2015. C'est les sensations que je vous décris. Et donc, cette pensée s'est imposée, septembre 2015, il se passe quelque chose. Et après, par rapport à la paracha, par rapport à l'enseignement des 7 années de vaches grasses, qui correspondent à 7 années d'abondance, et 7 années de vaches maigres, qui correspondent à 7 années, donc, de famine, de détresse, de catastrophe en tout genre, c'est comme si, quand il y a eu le crash boursier, en 2008, c'est comme si je sentais dans mon cœur cette pensée qui disait, là, c'est le top départ de 7 années de vaches grasses. Et effectivement, si on regarde depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui en 2015, malgré le crash économique, on peut pas dire qu'on est malheureux dans les pays occidentaux, que c'est la famine, même s'il y a beaucoup de problèmes, je suis d'accord, mais globalement, on peut pas dire que c'est la famine qui a ravagé, que c'est la catastrophe mondiale, on peut pas dire ça. Donc, même au contraire, on a vu que les États ont injecté des milliards dans les banques pour essayer de maintenir le système de manière artificielle, comme si tout allait bien. Donc, on est vraiment dans 7 années de vaches grasses. Mais cette pensée me disait, compte cette année, et on arrive à septembre 2015, et septembre 2015, on est parti pour les 7 années de vaches maigres, de famine et de catastrophes en tout genre. Et là, j'ai rien reçu de plus à ce sujet-là. Je ne peux pas m'avancer. Ce que je sais, c'est que, d'après ce que j'ai reçu dans mon cœur fortement à ce moment-là, à partir de septembre 2015, ma pensée me disait vraiment, il va se passer des choses. Ça va être des temps de détresse. Et c'est ce que Yeshua a dit, des temps de détresse tels qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. On trouve d'ailleurs la même prophétie en Daniel 12. Il est bien écrit, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et ça, c'est une autre invitation, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, si peu importe qui vous êtes, croyant, pas croyant, quoi que ce soit, en tout cas, mettez-vous en règle avec Dieu. Repentez-vous sur tout ce qu'il y a de mauvais dans votre vie. Changez vos voies. Attachez-vous à Dieu, parce que ça va, de toute façon, c'est des prophéties bibliques, que ça arrive là ou un peu plus tard, de toute façon, ça va arriver. De toute façon, la mort arrivera et saisira chacun d'entre nous. Il faut vraiment être prêt. Et c'est ce que dit Daniel, des temps de détresse tels qu'il n'y en a jamais eu jusqu'à cette époque. Donc, c'est vraiment la pensée que je recevais à partir de septembre 2015. Alors, qu'est-ce que ça va être, mes chers amis? Je ne sais pas. Tant de grandes tribulations aboutissant au dévoilement de l'Antichrist, qui sera donc déjà sur Terre, c'est peut-être le cas. Je n'oserais rien dire à ce sujet. Même si ça tient fortement debout, ça c'est que mon interprétation, je ne peux pas me prononcer à ce sujet. Alors une autre idée me vient aussi, on sait que cette année de vaches maigres qui correspondrait donc à cette famine planétaire peut tout simplement être due à une guerre, telle que la famine va en découler et qu'une famine planétaire va être la conséquence de cette guerre-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait, on a des exemples que à chaque fois qu'il y a eu une crise économique majeure ou qu'il y a des grands problèmes d'économie, et ben malheureusement, on sait qu'il y a une poignée d'hommes qui travaillent dans les coulisses et qui s'arrangent, les puissants de ce monde, on va dire, qui s'arrangent pour créer des guerres afin de relancer l'économie. Donc, il n'est pas impossible qu'en coulisses, ils se trament tout un tas de choses qui vont aboutir sur une guerre globale mondiale, troisième guerre mondiale peut-être même. Et on le sait, on a des exemples dans les précédentes guerres que le monde a essuyées, qu'à chaque fois, il y avait effectivement des vagues de famine qui en découlaient. Donc, c'est certain que s'il devait y avoir une troisième guerre mondiale, peut-être qu'il y aurait une famine planétaire comme jamais il n'y en a eu. Et donc, peut-être que ça pourrait être quelque chose dans ce goût-là. Je ne sais pas, c'est une idée que je propose. Mes amis, ça, c'est ce que j'ai reçu fortement, sans avoir consulté, comme dirait Paul, ni la chair, ni le sang. C'est véritablement, ça s'est imposé à moi alors que je regardais cet enseignement et que toutes ces choses dont je vous parlais étaient loin dans au fond de ma mémoire. Mais j'ai l'impression comme si vraiment ces choses ont ressurgi tout en même temps, se sont télescopées dans ma tête et je vous les ressors telles quelles aujourd'hui. Je vous les partage. Donc ça c'est, je dirais, le cœur de ce que j'ai reçu. Alors qu'est-ce que ça va être? Crash économique majeur mondial, famine planétaire, je ne sais pas. Le prophète Amos parle aussi d'une famine à laquelle on ne pense pas souvent. La famine d'entendre la parole de Dieu. Famine, non pas de la nourriture, mais une famine spirituelle. Il y a aussi cette famine-là qui risque d'arriver, d'accompagner peut-être même cette famine véritable. Il ne faut pas oublier que Amos, le prophète, le dit. Et c'est donc quelque chose qui peut très bien arriver aussi. La suite de mes pensées, ce que j'ai eu, c'est que je me suis dit, donc ceux qui sont véritablement attachés à Dieu, ceux qui véritablement croient en Dieu, eh ben, ils sont avertis. Ils sont avertis à l'instar de Joseph afin de préparer des stocks et de ne pas se laisser surprendre. C'est en tout cas la recommandation suivie et dictée par Joseph lui-même lors d'un même épisode. Là, j'aimerais insister sur une chose parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes à juste titre, mais qui disent on s'inquiète de rien. Effectivement, Dieu, pour ceux qui croient en lui, dit ne vous inquiétez de rien, mais qui aussi vont se dire puisqu'on s'inquiète de rien, on va rester les doigts de pied en éventail et on va rien faire. Je suis pas tout à fait d'accord. On a un exemple biblique qui est Joseph où Dieu avertit et Dieu dit de faire des stocks. c'est biblique, c'est pas une invention. Donc peut-être que je me suis dit, ça peut être le cas pour nous aussi, et d'inviter justement, tant qu'il y a encore des calmes et une période de calme et de paix, de faire certaines réserves, afin de justement ne pas être surpris par les événements majeurs qui risquent d'arriver. Donc voilà le cœur de ma pensée. Ce qui s'est passé du temps de Pharaon se reproduit pour la fin des temps en accord avec les prophéties des sages d'Israël dont parlait justement le Rav dans son enseignement concernant les prophéties devant s'accomplir pour l'époque pré-délivrance finale. Alors voilà, tout peut se mélanger, je sais pas, guerre nucléaire, catastrophe, guerre en tout genre, qui entraînerait des crashs économiques et je ne sais quoi. Ça peut être plein de choses, je ne sais pas. Ce que j'ai reçu, c'est qu'en tout cas, ça va commencer à ce moment-là. Il risque de commencer à avoir des événements très sérieux et que ceux qui sont pas préparés, qui ont pris tout cela à la légère, risquent d'être malheureusement pris au dépourvu, très surpris et être entraînés dans une tempête sans s'y être préparés. Alors, effectivement, vous vous imaginez que par rapport à tout ça, je me suis dit, mais Seigneur, si c'est toi qui me révèles tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle peut être ma réaction? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire par rapport à des événements qui sembleraient annoncer que septembre 2015 serait comme le top départ, alors brutal ou progressif, je ne sais pas, mais en tout cas le top départ d'événements qui risquent d'être des événements prophétiques majeurs correspondant à ces temps de détresse annoncés par les prophètes de la Bible. J'ai prié, évidemment. J'ai vraiment prié le Seigneur, j'ai prié l'Éternel des armées, j'ai prié Dieu, et je lui ai vraiment demandé des confirmations. Parce que de telles pensées, des choses aussi fortes ne peuvent pas ne pas recevoir de confirmation, c'est un message qui est très lourd, trop lourd peut-être même, bien même, je le considérais même comme trop lourd comme message. J'ai donc tout simplement demandé à l'Éternel une pluie de confirmations, des confirmations en tout genre, afin de me montrer si oui ou non ces choses, ces pensées venaient bien de lui. C'était ma prière. Donc maintenant, pour la pluie de confirmation, effectivement, je vous invite vraiment à écouter la partie 3 de l'audio dans laquelle je vais essayer de vous exposer donc les confirmations assez extraordinaires, les confirmations vraiment extraordinaires qui me sont parvenues par la suite après avoir prié le Seigneur, donc de me confirmer par toutes sortes de biais que ce message était bien de lui et que ce n'était pas le produit de mon imagination, mais que ça pouvait bien venir de lui. Donc, je vous invite vraiment à écouter cette partie 3 qui va vraiment traiter de tous ces signes. Je vais traiter des principaux signes parce que finalement, il y en a tellement, en fait, mais je vais traiter des principaux. Voilà. Donc, à l'heure où je fais cet audio, la partie 3 n'est pas encore sur le site web ni sur Internet. L'audio est déjà en partie enregistré, il faut juste que je peaufine certaines choses et ensuite que je mette ça sur le web. Donc si elle y est, allez-y, je vous encourage à l'écouter vivement pour avoir, pour vous-même, que vous puissiez constater les nombreuses confirmations qu'il y a eu par la suite. Confirmations que je trouve assez spectaculaires et qui m'ont vraiment tellement impacté que j'en suis venu à faire cet audio. Voilà, je vous dis à la partie 3, soyez tous pleinement bénis et à bientôt.